Forcaner.
Gravel dans le retour, ça gagne à être connu.
Okay. 5h30 à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Le soleil a repris ses droits et donne la tendance pour les prochains jours. Demain, soleil 23, mercredi, soleil 26 et jeudi, du soleil et également un maximum de 26. Souvent, très souvent, trop souvent peut-être, on parle des mauvais côtés des réseaux sociaux et des mauvais côtés d'Internet. On va essayer de faire l'inverse dans les prochaines minutes. C'était la quatrième édition en fin de semaine du gala Influence Création qui veut saluer, dans le fond, ceux qui font du réseau social.
Ceux qui créent du contenu.
Ceux qui créent du contenu dans toutes les catégories possibles pour faire en sorte, justement, de souligner l'excellence. Et parmi les gens qui ont gagné dans l'édition d'hier du gala Influence Création, ben, y a quelqu'un à qui on a parlé à quelques reprises au fil des dernières années. Elle est médecin en santé publique et vulgarisatrice médicale. Connue sous le nom de la MD colorée sur les réseaux sociaux, on va aller rejoindre Michel Houde en ligne. Salut Michel!
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien, merci.
Hey, félicitations!
Ben merci beaucoup, ça va bien, mais j'ai une petite fatigue là, parce que ça a été une belle célébration.
J'imagine, lendemain de veille et tout ça, là, tant mieux si vous en avez profité de la gang.
Oui, oh oui, oui, on en a profité.
Michel, pour les gens qui ne savent pas ce que tu fais sur les réseaux sociaux, peux-tu nous l'expliquer en quelques phrases?
Oui, ben, je fais de la vulgarisation médicale. Je parle de santé, de médecine sur les réseaux sociaux. Puis j'aime particulièrement parler de sujets qui sont tabous, comme la santé sexuelle, la santé mentale. Je fais d'ailleurs de la clinique de santé sexuelle. Je suis dans ma clinique là actuellement en vous parlant. Et puis, je m'inspire beaucoup de ce que je vois, de ce qui gêne les personnes pour essayer de rejoindre finalement les gens dans des sujets desquels ils ne voudraient pas nécessairement parler dans la vie de tous les jours.
Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu as choisi les médias sociaux comme étant cette plateforme-là pour communiquer?
En fait, moi, ça a commencé pendant la pandémie, lors d'une des vagues. Là, j'étais confinée seule chez nous, j'étais à la maîtrise, puis on était en cours virtuel. Donc, je manquais de contacts sociaux et j'ai décidé de télécharger TikTok parce que j'en avais entendu du bon, même si moi, je pensais que c'était juste des enfants qui dansaient sur cette plateforme-là. Mais j'ai essayé.
On le pensait tous, hein?
Oui, c'est ça. Mais sur TikTok, j'ai vraiment trouvé une communauté, il y a des personnes qui partageaient leur quotidien, qui partageaient un peu d'eux, puis ça me faisait sentir moins seule. Donc, j'ai trouvé un beau côté des réseaux sociaux. Et donc, j'ai commencé à partager aussi sur TikTok. Et tranquillement, ben les gens se sont intéressés à ce que je faisais. Puis, quand je parlais un peu de mon métier, j'ai vu que ça suscitait beaucoup de questions, d'intérêt. Et c'est ce qui m'a motivée à continuer. Donc, sur les plateformes sociales, TikTok, Instagram et Facebook. Mais maintenant, je fais aussi un peu de médias traditionnels. Ouais. Alors, je suis bien contente de pouvoir diversifier un peu mon auditoire.
Michel, as-tu été surprise de voir l'ampleur que ça a pris même après la pandémie? Puis, je te pose la question, quand la vie normale a repris son cours, as-tu le goût de dire, bon, ben c'était une pause, maintenant je vais me concentrer sur ma job de jour? Comment t'as suivi l'évolution de ça après la pandémie?
Ben, j'ai jamais eu le goût d'arrêter. En fait, moi, quand j'ai commencé, je me suis donné deux règles. La première, c'était de ne pas me stresser, c'est-à-dire de le faire seulement si ça me tentait. Mm-hmm. Puis la deuxième, c'était de me montrer naturellement, de manière authentique, pour ne pas contribuer à cette espèce de... Il y a beaucoup de gens qui se comparent sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui publient seulement les beaux côtés. Alors bon, ça, c'était les deux règles que je m'étais données. Et puis la règle du plaisir, elle tient toujours. J'ai ralenti par moments quand je devais, par exemple, étudier ou quand je me sens trop occupée, je me sens débordée, je publie moins. Mais quand l'envie est là, je retourne sur les réseaux sociaux Et je pense que ce qui me garde vraiment allumée, c'est le fait de pouvoir rejoindre des personnes qui viendraient pas nécessairement me voir en clinique ou qui vont pas nécessairement aller chercher des conseils santé ailleurs. Ben eux, j'arrive à les rejoindre, puis ça crée une très belle communauté.
Oui, est-ce que ces gens-là, justement, qui sont pas à l'aise d'aller te voir, ont tendance à te poser des questions, à te contacter?
Bien, je reçois beaucoup de questions, oui. J'ai l'impression que pour certaines personnes, notamment les jeunes, c'est plus une écoute passive. C'est-à-dire que dans mes commentaires, la moyenne d'âge est un peu plus âgée que la moyenne d'âge de mes abonnés, si on veut. Donc, dans mes abonnés, j'ai beaucoup, beaucoup de jeunes. Dans les commentaires, c'est moins des adolescents ou des adolescentes, par exemple. Mais j'en reçois de temps en temps des questions, des commentaires. Alors, j'essaie d'orienter mon contenu un peu en fonction de ça. Mais c'est souvent une écoute plus passive, je dirais.
Michel, les réseaux sociaux, il y en a qui ne comprennent pas encore tout à fait ça, la création de contenu, puisque ça peut réellement amener. Tu réponds quoi aux gens qui comprennent pas que tu prends le temps pour ça? Tu sais, t'es médecin, puis on entend des fois, mais là, on manque de médecins. Comment ça que ça prend du temps, ces réseaux sociaux? Comment tu joues avec ça?
Ah ben, d'abord, je ne crée du contenu que hors de mes heures de travail. C'est-à-dire que moi, je fais ça bénévolement le soir, la fin de semaine. Alors, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'est pas beaucoup de professionnels de la santé de plus en plus, mais on n'est pas beaucoup de professionnels de la santé sur les réseaux sociaux. Mais je comprends, en fait, des personnes qui ne consomment pas de réseaux sociaux, je comprends qu'ils puissent ne pas comprendre. C'est-à-dire, c'est quelque chose de quand même nouveau. Et moi, une chose qui m'a surprise, c'est à quel point les rencontres et les interactions sont réelles. C'est sûr que c'est différent des rencontres dans la vraie vie, mais on crée vraiment des liens, même des amitiés sur les réseaux sociaux. Et moi, disons, mon argument principal, c'est que comme médecin en santé publique, c'est important de communiquer. C'est un de nos rôles, en fait, à la santé publique. Et il faut communiquer là où les gens sont et non forcer les gens à venir nous écouter là où on veut leur parler. Du moment que les réseaux sociaux vont être là, qu'ils vont être populaires, qu'il va y avoir beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, je le vois comme une responsabilité d'y être aussi pour communiquer.
Michel, à une certaine époque, il y avait des parents qui étaient inquiets de ce que la radio allait faire aux enfants. Puis après ça, ça a été la télévision. Puis après ça, ça a été Internet. Et là, ben, le mal à la mode pour bien des parents, et j'en suis, ben c'est les TikTok de ce monde, les plateformes et ainsi de suite. Puis là, on se dit, ben c'est quoi la meilleure façon d'encadrer ça? Et là, il y a des... Il y a des pays qui ont commencé à légiférer sur l'âge à partir duquel tu peux avoir TikTok et ainsi de suite. Est-ce que tu as l'impression que c'est la bonne façon d'aborder les réseaux sociaux par une génération qui ne les comprend même pas dans le fond, là? Parce que j'ai de la misère à pas tracer de parallèle avec toutes les nouvelles technologies qui sont arrivées, qui font en sorte que tu as une génération qui est complètement dépassée par cette nouvelle technologie-là. Fait que là, nous autres, on pense juste à restreindre puis à encadrer davantage et ainsi de suite. Je serais curieux d'entendre ton point de vue là-dessus.
Bien, moi, j'ai vraiment une vision nuancée. Je pense que c'est un mélange des deux. La différence entre les réseaux sociaux puis peut-être la radio, par exemple, c'est que les réseaux sociaux, notamment TikTok, mais même maintenant, les courts vidéos sur Instagram, Facebook, sont vraiment faits pour attirer l'attention et attirer l'attention de manière courte. Et il y a quand même un risque de dépendance qui est important. Alors, moi-même, j'ai l'impression de ne pas gérer ma consommation de réseaux sociaux, mais je gère bien ma consommation de radio, par exemple. Donc, je comprends l'inquiétude. Je pense qu'il y a des jeunes qui souffrent de dépendance aux médias sociaux, comme beaucoup d'adultes aussi.
Ben oui.
Puis, ayant travaillé un peu sur le sujet, les jeunes nous disent souvent, mais je peux pas, je voudrais déconnecter de mon téléphone, mais par exemple, mes parents sont toujours sur leur téléphone, des choses comme ça. Je pense, en fait, qu'il faut pas juger une génération. C'est une génération qui a grandi avec les réseaux sociaux. Il faut absolument être conscient des possibles effets néfastes, parce qu'il y en a, c'est clair. Mais il faut le voir comme... pour tout le monde, finalement, pour toutes les générations. Et je pense qu'il faut écouter les jeunes. Moi, j'ai entendu des jeunes qui ont dit que, par exemple, l'interdiction des cellulaires, ça leur a fait du bien. D'autres qui ont dit que ça n'a rien changé parce que les jeunes sortent de l'école pour aller sur leur téléphone, par exemple. Je pense qu'on doit impliquer les jeunes dans les réflexions, dans les solutions et reconnaître les points positifs. C'est-à-dire, ça permet de rentrer en communication. Ça permet un certain sentiment de communauté, de développer ses intérêts, mais après, on a besoin d'une littératie numérique, de bien utiliser les réseaux sociaux. Et ça, ben, il faut que ce soit intégré dès un jeune âge, finalement, de former les jeunes à grandir avec les médias sociaux.
Michel Houde, encore une fois, félicitations. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous parler, puis au plaisir de te suivre, MD Coloré.
Ça m'a fait grand plaisir. Merci à vous.
Bye-bye.
Au revoir.
Bye. Michel Houde. Oui.
Chaque fois qu'on y parle, je suis complexée.
Oui, c'est la fille de notre ami Pierre-Aude.
Ouais.
En passant pour les gens qui se posaient la question.
J'ai la même âge que cette fille-là, okay, qui est médecin temps plein, qui réussit à se faire nominer et qui gagne des prix pour la création de contenu en informant des gens sur les plateformes de médias sociaux.
Elle parle au moins trois langues.
Qui joue des instruments. Ouais. Elle n'en parle pas sept même.
Ça se peut que ça. Je sais qu'elle en parle trois au moins parfaitement. Là.
Elle voyage à travers le monde. Je comprends pas ces gens-là qui sont multitalents de même, qui ont le temps de tout faire. Elle m'impressionne, cette femme-là.
Puis tu sais, on était sur un autre sujet complètement il y a à peu près une heure et quart, puis je disais, si on laisse la place aux gens qui n'ont rien à dire, on a déjà perdu un peu d'avance. Moi, de voir des gens comme ça qui décident d'aller où les jeunes sont pour partager du contenu de qualité, puis des trucs intelligents, puis des trucs intéressants, je trouve ça génial. Parce que tu peux pas juste chialer, ouais, les jeunes sont plus là, les jeunes nous écoutent plus, les jeunes sont rendus ces plateformes. Je lisais un texte de la presse ce matin, c'est Mario Girard, qui parle de la fameuse cible des acheteurs de pubs.
Le 25-54.
Pour les codes d'écoute, le 25-54. Puis lui, sa réflexion, c'est de dire, on est-tu encore dans le bon public cible? Parce qu'un gars de 25 ans puis un gars de 54 ans, ils n'écoutent plus les mêmes affaires puis ils ne sont plus actifs de la même façon. La réflexion est intéressante, mais c'est quand on arrive d'un chiffre que ça fait sans tabarnouche.
En fait, il y a des cibles au pluriel maintenant. Là.
Ben oui, mais les groupes des 25-54 ans, en 2009-2010, ça fait pas longtemps, là. C'était 48% de l'écoute télé. Ça veut dire une personne sur deux.
C'est quand même assez élevé, hein?
Savez-vous, c'est rendu à combien?
Combien?
28. Ah. 28%. On est passé de 50% à 28% en quoi? À peine 15 ans?
Ben ouais.
Mais ces gens-là, là, ils se divertissent encore.
Mm-hmm. Ils consomment encore.
Faut aller où est-ce qu'ils sont, tu sais. Puis c'est pas pour rien que nous autres, on tu sais, la radio est un média malléable. On se fend le cul pour être ces plateformes puis ces réseaux sociaux, puis être le plus vite possible. Puis, tu sais, essayer de rester collé. Mais la télévision a essayé quoi pour aller chercher un public plus jeune? Faut que tu les utilises, ces plateformes-là. Faut pas que tu les vois comme un ennemi. Tu sais, il y a des jeunes réalisateurs qui font des beaux documentaires là, sur Netflix. Là. Oui. Il y en a un, M. Poisson, je pense.
Oui, oui, qui a fait celui sur les expos.
C'est pas Simon?
Je me souviens pas de son prénom.
Je vais chercher.
Poisson, ça sortient mieux qu'un autre nom de famille, il faut croire, là, parce que je me souviens que son nom, c'est Poisson. Mais je sais qu'il en prépare un autre, un documentaire qui va être encore sur les plateformes de streaming.
Jean-François Poisson.
Jean-François Poisson, hein, exact. Ouais. De voir des gens, puis je sais que dans le cas de Michel Houde, dans pandémie, elle trouvait ça important. Il se dit tellement de conneries, il se dit tellement de faussetés. Ben moi, j'étudie là-dedans, puis je vais profiter de mon statut pour faire le point sur certaines chose, puis ainsi de suite. Mais bravo, bravo!
C'est drôle parce qu'au début, j'avais un genre de jugement pour ce genre de gars-là. Je me disais, bon, c'est tous les influenceurs qui vont les mettre en petite robe cute puis qui vont les partager les photos.
C'est parce que les premiers influenceurs qu'on a connus, là, c'est acheter ce maquillage-là, puis j'ai reçu des chaussures gratuites, fait que c'est donc payote.
C'était le début du marketing digital. Ouais. C'était comme... Mais tu sais, quand tu regardes les catégories, oui, t'as du style de vie, du mode beauté, divertissement et compagnie, mais t'as du sport fitness, t'as de la nutrition, t'as des affaires par rapport à la parentalité, la famille, le voyage.
Masculinisme, tu l'as-tu?
Non,
ça n'a pas fait la cote.
Éducation, sensibilisation, information, actualité. Fait que tu vois qu'il y a des pans qui sont super intéressants puis des gens qui essayent vraiment dans leur propre domaine d'apporter une autre dimension. Tu sais, la MD Coloré, bon, Michel, elle a fait du contenu un peu du day-to-day, puis médical, puis elle explique, puis t'as des dermatologues qui vont le faire. T'sais, on a tellement pas de dermatologues qu'on peut voir rapidement au Québec.
C'est à se demander si rapidement, on devrait pas être en mesure d'authentifier ces créateurs de contenu-là. Puis on s'était déjà parlé de cet enjeu-là, puis je comprends que la Chine, c'est pas un pays qui est admirable.
Ben, tu peux.
Mais de dire, oui, c'est bel et bien un médecin. Oui, c'est bel et bien quelqu'un qui s'y connaît en finance. Ouais. Oui, c'est bel et bien un docteur en nutrition et non pas quelqu'un qui essaye de vous vendre la nouvelle recette recette miracle pour le jeûne.
Ça me fait penser à la fausse avocate là, est devenue célèbre à un moment donné, puis finalement, c'était pas une avocate, puis c'était une fraudeuse en série. Il y avait eu des bons reportages là-dessus.
Tout à fait, exactement. Fait que, ça commence à prendre tellement de place, justement. Tu le mentionnais, on manque de psychologues, on manque de dermatologues. Ça crée... T'as les officiels, ceux qui ont comme un vrai parcours, mais ça crée aussi cette espèce de risque-là de se tourner vers des présumés experts.
La première, il y a le crochet bleu que vous pouvez surveiller pour... tu sais, je veux dire, il y a des gens qui, quand sont sérieux dans leur démarche, autant sur Instagram que sur Facebook, vont avoir un compte authentifié. Faut que tu payes pour ça par mois, puis c'est un bon petit montant, là. Fait que généralement, les gens qui font du contenu sérieux vont payer ce crochet bleu-là.
Fait que mettons un tout croche qui veut juste pogner, il peut pas se payer ce crochet-là?
Il pourrait se le payer, mais là, mon autre point, c'est qu'on a une responsabilité quand on consomme, je pense, l'information sur Internet comme n'importe où. Je veux dire, moi, généralement, si je consulte un médecin ou un psychiatre ou un peu importe, je veux dire, il y a des plateformes où tu peux aller vérifier si ces gens-là sont bel et bien dans l'ordre, là, tu sais. Fait que je pense qu'on a aussi notre bout à faire en frais de source aujourd'hui avec tout ce qui se promène sur Internet, mais effectivement, ce serait intéressant qu'on ait un coup de pouce supplémentaire.
17h46, on fait un dernier petit stop, puis on revient. C'est du soleil présentement à Québec, et devinez quoi? Du soleil qui reste demain, mercredi et jeudi avec des maximums d'été, puis tout, là. Gravel. Boulevard.